Bonsoir, tendance mitigée ce lundi sur les marchés après une semaine chaotique sur fond de guerre commerciale menée par les États-Unis. Donald Trump, vous savez, juste avant le week-end, a mis ses menaces à exécution contre la Chine en dévoilant son plan de rétorsion. Pékin menace de droits de douane une centaine de produits américains. Hausse le ton, mais des négociations semblent avoir démarré. Alors est-ce vraiment l'apaisement ? Jusqu'où chacun des camps peut-il aller sous peine de s'enliser ou de gripper l'économie mondiale ? On voit chacun qui avance ses pions, alors est-ce le grand bluff ? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, je disais tendance mitigée, le rouge donc en Europe, donc aux environs de 17h35 tout à l'heure à la clôture à Francfort, à Londres, à Paris. Le vert ce lundi matin en Asie, le vert au moment où on se parle à New York, le Dow Jones, le Nasdaq. On va en parler avec Didier Saint-Georges, Managing Director, membre du comité d'investissement chez Carmignac. Avec nous l'économiste Akiko Suwa-Eisenman, elle est chercheuse à l'école d'économie de Paris, la Paris School of Economics, membre du cercle des économistes, et François Hesbourg, conseiller spécial auprès de la Fondation pour la Recherche Stratégique, qui vous propose ce livre, malheureusement toujours d'actualité. Il y a un petit livre, hein, allez-y et précipitez-vous, sorti il y a 2 ans, Comment perdre la guerre contre le terrorisme. Assez pessimiste François dans ce livre, mais bon, voilà, il y a peut-être des leçons à prendre malgré tout. C'est vrai que l'actualité était dramatique depuis 48 heures, 72 heures ici en France. Alors, je cite Mike Pence, le vice-président américain. L'ère de la reddition économique a cessé. La Chine, elle appelait ce lundi matin les États-Unis à cesser l'intimidation en matière économique. Et que disait le Global Times, donc adossé au quotidien du peuple ? Washington a besoin de prendre une vraie leçon. Et cette leçon ne peut être donnée que par la Chine, deuxième économie mondiale. Alors François Hesbourg, bon, vous connaissez particulièrement tous les dossiers militaires, bien entendu. Langage guerrier, guerre vraiment entre Chine et États-Unis ?
Guerre au sens militaire, Dieu merci, non. Mais on est dans un conflit qui est hors norme. Lorsqu'il y a un quart de siècle, les États-Unis et le Japon se faisaient ce qu'on appelait à l'époque une guerre commerciale. Et il y avait 2 limites que les États-Unis et le Japon n'avaient pas franchies. La première de ces limites, c'était que ni l'un ni l'autre ne mettait en cause le système commercial multilatéral. Il ne s'agissait pas de détruire l'OMC. Et chez le président Trump, il n'est pas du tout évident que cette limite existe dans sa tête ni en pratique. Et la deuxième différence, bien sûr, c'est que le Japon était un pays, est toujours un pays allié des États-Unis, et donc il y avait des limites que ni l'un ni l'autre n'allait franchir. La Chine, et comme le rappelle le Global Times, qui est un journal très proche de l'armée chinoise, n'a évidemment pas les mêmes dispositions que le Japon. Au plan global, c'est une situation nouvelle. Et j'ajouterais que le plus grave, mais là je parle sous le contrôle des économistes, c'est peut-être pas l'effet matériel de telle ou telle augmentation de tarifs. C'est tout simplement que lorsque vous êtes lorsque vous êtes face à quelqu'un comme Trump qui veut changer la règle du jeu, vous allez changer les anticipations des acteurs économiques et pas forcément dans le bon sens.
On va le voir notamment avec Akiko Suwa-Eisenman, avec Didier Saint-Georges. Simplement, dans une guerre, François Hesbourg, il y a des buts de guerre. Est-ce qu'à vos yeux, ils sont très visibles, très lisibles, ces buts de guerre ?
Le but de guerre de Trump est à la fois très visible et totalement absurde. Et il est visible dans le sens où il dit « c'est très mal d'avoir un déficit commercial ». Déficit commercial, c'est mal, et un excédent commercial, c'est bien.
Et 375 milliards de dollars au détriment des États-Unis.
Il est vrai que l'Empire britannique n'a pratiquement jamais eu d'excédent commercial au fait de sa puissance. De même que les États-Unis, empire mondial, n'ont pratiquement jamais eu un excédent commercial. Trump va faire revenir les États-Unis à un monde où il sera comme le Japon, ou comme l'Allemagne, ce qui n'est pas tout à fait le même statut. Et avoir un excédent commercial, ça a certains avantages, ça n'a pas que des avantages. Et c'est là où, effectivement, ça confine à l'absurde. Ce n'est pas le but des guerres qui n'est pas clair, c'est le but des guerres qui est absurde.
Akiko Soa Eisenman, mise en scène, cette rhétorique guerrière ou réelle envie d'en découdre de part et d'autre?
Je pense que M. Trump et ses conseillers ne savent pas très bien ce que c'est que le commerce international. Donc, il y a un objectif. L'objectif, ce n'est pas tellement le commerce. L'objectif, c'est les emplois aux États-Unis, ce qui est un objectif, en fait, tout à fait valable. On pense que l'émergence de la Chine sur la scène mondiale, c'était 0% des exportations mondiales en 91 et en 2007 c'est 10%, enfin donc maintenant c'est 13%, hein, donc c'est énorme. Cette émergence d'un seul pays, ça a profondément bouleversé effectivement le système mondial et d'abord les États-Unis. On pense que la première phase, c'est-à-dire entre 91 et 2007, ça détruit à peu près 1 million d'emplois manufacturés aux États-Unis. 1 million d'emplois, sachant qu'il y a eu 6 millions d'emplois aussi manufacturés détruits durant la même époque, sans doute aussi pour d'autres raisons structurelles sur lesquelles on va revenir, comme la technologie. Donc c'est très important.
Mais maintenant,
est-ce que pour sauvegarder l'emploi aux États-Unis, il faut taper sur la Chine?
C'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ça va faire revenir les emplois aux États-Unis?
Il y a la robotisation. Est-ce que il y a par exemple, Bangladesh? Maintenant, la Chine a un problème, c'est ils vont avoir de moins en moins de main-d'œuvre. Ils ont ce qu'on appelle la transition démographique. Ils vont avoir de moins en moins de main-d'œuvre et leur salaire est en train d'augmenter. Donc, il y a des pays comme le Bangladesh dont le salaire est 20% celui de la Chine. Par rapport à ce genre de pays, quand est-ce que les emplois peuvent revenir aux États-Unis? C'est vraiment un gros problème.
Didier Saint-Georges, Carmignac, je le disais tout à l'heure, donc tendance mitigée. Rebond, rechute en Europe. Paris qui est au plus bas depuis le 30 août, qui a perdu 0,6% à 5066. Francfort qui a perdu 1%, Londres moins 0,5%. Ça allait mieux, tout ça est très fragile. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui?
Oh, je pense qu'il s'est passé aujourd'hui. Ce qui se passe depuis plusieurs mois, c'est quelque chose, à mon avis, de bien plus important que ces escarmouches commerciales, qui pour l'instant ne sont que cela. Je pense que l'idée de
escarmouche, ça veut dire que c'est pas plus grave que ça, c'est pas plus pérenne que ça, à votre avis?
C'est-à-dire que on voit déjà à travers nos discussions que c'est une espèce de joyeux mélange entre quelques réalités, et la réalité de l'émergence de l'économie chinoise globalement en est une, la réalité du déficit commercial en est une autre, mélange avec ça, avec des contre-vérités absolues, qui serait par exemple que le déficit commercial serait dû uniquement à la Chine. N'importe quelle économie L'économiste sait que le déficit commercial, c'est essentiellement, en comptabilité nationale, un excès des dépenses sur l'investissement. Et donc une insuffisance d'épargne. Et on sait qu'aux États-Unis, il y a un taux d'épargne qui est très très faible. En Chine, il y a un taux d'épargne qui est très élevé. Et vous avez le reflet de ça dans les soldes courants. Donc le déficit commercial n'est pas uniquement dû aux manœuvres chinoises, même si elles existent. Et puis la troisième chose qui mélange tout ça joyeusement, et c'est pour ça que les marchés sont un peu perdus, la troisième chose, c'est bien entendu une question de posture. Il est clair que les décisions de Trump, qui sont pas encore des décisions, hein, qui ne sont que des menaces, étaient dans son programme, n'ont pas pu être mises en œuvre toute l'année dernière, ce qui est d'ailleurs ce qui est reflété dans la baisse du dollar. Et ce que je peux peut-être vous dire là, d'un angle de marché, c'est quand vous voyez la façon dont le dollar réagit en ce moment, c'est bien le signe, c'est-à-dire que le dollar reste très faible, hein, c'est bien le signe que les marchés sont très sceptiques sur la capacité véritablement de réduire considérablement le déficit commercial américain, car si c'était le cas, ça se reflèterait dans un dollar plus fort. Donc je pense que les marchés aujourd'hui traitent cela avec l'importance qu'on donne au bruit, c'est-à-dire ça crée de la volatilité, ce qui me paraît beaucoup plus important et qui dans une certaine mesure est renforcé par ce bruit de bruit de botte commercial. C'est beaucoup plus le fait qu'on rentre dans une période qui historiquement est absolument majeure pour les marchés, c'est-à-dire que depuis 2009, les banques centrales ont injecté 12 000 milliards milliards de dollars dans les marchés qui les a fait monter, et on rentre là dans une période où le cycle économique est en bout de course et tout le soutien monétaire lui-même va se réduire massivement à partir de cette année. C'est beaucoup plus qui est important, et comme les marchés détestent le protectionnisme, ils se disent ah, historiquement ça n'a jamais aidé, hein. Il y a cette espèce de mémoire collective, même si elle vient que des livres d'histoire, hein, du fameux Trade Act de 1930, quand l'économie américaine commençait à ralentir à cause de la crise de 1929, le gouvernement américain se dit, je vais protéger mon économie en remontant les tarifs douaniers. Naturellement, les partenaires commerciaux des États-Unis font de même. Résultat, les exportations américaines s'effondrent et l'économie américaine rentre en dépression. Ce souvenir plus ou moins conscient alimente une détestation terrible par les marchés de tout ce qui ressemble à du protectionnisme.
Oui, protectionnisme, c'est quoi? C'est le discours post-électoral. Il a besoin, Trump, de dire, voilà, je vous avais promis ça, je vais le mettre en application. Mais ira-t-il jusqu'où? Il sait vraiment où, jusqu'où il peut aller?
Avec Trump, il y a plusieurs choses. La première, c'est que l'homme, il est comme il est. C'est-à-dire qu'il a des limites relativement étroites de sa bande passante, pour parler très poliment. Et il ne faut pas sous-estimer l'incapacité ou l'incompétence comme facteur en matière de prise de décision internationale, et c'est vrai chez les Américains comme dans d'autres pays. Et deuxièmement, il y a le Trump qui a des positions constantes et il y a le Trump qui a des positions variables. Et sur le protectionnisme, il est plutôt dans la position constante. Et contrairement, par exemple, au sujet de l'immigration, où il a beaucoup varié au fil des décennies. Parce que pour Trump, il a plus de 70 ans. Et c'est un type qui s'exprime sur beaucoup de choses depuis longtemps. Donc on sait ce qu'il pense d'un certain nombre de sujets. Et oui, il est protectionniste. Non, il ne croit pas au multilatéralisme. Non, l'OMC ne devrait pas exister. Et tout doit se traiter one on one, comme pendant les années 30. Mais exactement comme dans les années 30. Pour lui, je pense que le monde idéal, du point de vue du commerce international, c'est le monde des accords de clearing de Monsieur Chartres et autres Allemands et Américains et Britanniques pendant les années 1930.
Alors, rappelez deux mots. En quoi
C'est qu'il faut qu'il y ait entre chaque pays et un autre pays, il faut qu'il y ait un équilibre du commerce extérieur. Alors, si vous avez, par définition, un commerce extérieur équilibré entre chacun, et vous réduisez de façon absolument catastrophique le commerce extérieur en général, la possibilité d'avoir des chaînes de valeur transfrontières de façon générale. Et c'est là où je suis inquiet sur les anticipations. Parce qu'effectivement, dans l'immédiat, les marchés réagissent par rapport au bruit, c'est de la mousse. Un peu comme pour l'affaire japonaise il y a 20-25 ans que je citais. Mais si on va réellement vers ce monde-là, et les anticipations des marchés vont être extrêmement dures. Et les anticipations, quand je parle des marchés, je ne parle pas simplement des marchés boursiers, je parle des anticipations des entreprises en tant que telles. Et vous allez vraiment bâtir des chaînes de valeur transnationales si les États-Unis décident que l'OMC, c'est fini. Et encore une fois, dans ce domaine-là, Trump, il est relativement constant.
Saint-Georges, juste après vous, Akiko Suwa-Edelman.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. C'est-à-dire que, oui, il y a plusieurs choses. D'abord, cette constance sur le sujet du protectionnisme, elle concerne Donald Trump, mais pas seulement, elle concerne toute l'opinion américaine. En réalité, c'est un sujet sur lequel Donald Trump n'est pas clivant aux États-Unis. Hein. Cette idée que, si vous permettez l'expression, les États-Unis se font avoir par la Chine est un sujet qui est très populaire.
Je cite Michael Forman, qui est l'ancien conseiller d'Obama, donc qui a agi là il y a quelques heures, qui estime que les préoccupations de Trump sont légitimes. Voilà. Donc on voit que c'est assez consensuel.
Absolument. Hein. Donc ce sujet-là, il est ni nouveau, ni clivant. Et donc Donald Trump marche sur du velours, là, hein, dans la perspective des élections de mi-mandat du mois de novembre. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le risque, il n'est pas tant à court terme, parce qu'en réalité, vous avez une espèce de... c'est pas tellement un équilibre de la terreur, c'est le fait qu'en réalité les marges de manœuvre sont assez faibles, parce que certes la Chine pourrait dire bah dans ce cas-là je remonte moi-même mes droits de douane sur tel ou tel produit, mais en réalité elle-même est très dépendante. Enfin, on peut rentrer dans le détail de la réalité des menaces, mais le problème est effectivement beaucoup plus à long terme, parce que il y a véritablement à long terme une vraie compétition sur la suprématie, la domination technologique entre les États-Unis et la Chine. Et ça, c'est un vrai sujet à long terme.
Ouais, tout juste. Alors, c'est vrai, on va juste rappeler à Akiko Suhuizenman ce qui s'est passé donc depuis 72 heures, hein, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Trump qui annonce des, alors, qui a, après avoir annoncé donc des droits de douane sur les importations américaines d'acier et d'aluminium, il cible donc Pékin en dévoilant un projet de taxe supplémentaire pouvant frapper jusqu'à 60 milliards de dollars de produits chinois. Alors, il y a des fruits, du vin, de l'éthanol, du ginseng, des tubes d'acier sans soudure, de la viande de porc, de l'aluminium, mais pas le soja. Tiens, vous nous expliquerez pourquoi, parce que vous aussi, vous avez un prisme agronomique aussi. Et puis, la Chine, elle a riposté vendredi, donc, en évoquant la possibilité de droits de douane sur 3 milliards de dollars d'importations provenance des États-Unis sur une liste de 128 produits. Que veulent exactement les États-Unis? Qu'est-ce qu'ils attendent de la Chine?
Donc, ils veulent annuler, enfin je suis tout à fait d'accord, leur déficit vis-à-vis de la Chine.
Réduire
leur déficit vis-à-vis de la Chine, mais ils se trompent d'une guerre. Ou plutôt, si c'était la guerre qu'il fallait mener, je pense, il y a 10 ans, quand la Chine exportait des meubles ou des jouets. Donc il n'y a plus d'industrie du meuble, plus d'industrie des jouets aux États-Unis. Hein. C'est ça les 1 million d'emplois qui ont disparu. Maintenant, malheureusement, la Chine, elle exporte des iPhones. Et les iPhones, ben, c'est des composants japonais, des composants américains, des brevets américains. Donc, en fait, en commençant une guerre commerciale avec la Chine maintenant, Trump se tire une balle dans le pied. Et d'autre part, il a aussi une guerre de retard, parce que si en ce moment la politique américaine c'est le chaos, la Chine, à l'intérieur de la Chine, il faut bien voir que c'était au moins une partie de ping-pong entre le parti tenu par Xi, le président, et les bureaucrates qui étaient proches du Premier ministre. Et ils se rendent bien compte maintenant que la Chine, c'était une phrase de Paul Krugman qui disait « Est-ce que la Chine, c'est de l'inspiration ou de la transpiration ?» Et lui, il disait « C'est la transpiration, c'est les ruraux, les agriculteurs qui vont dans les industries, qui deviennent des ouvriers. » Et ça s'arrête. La transpiration va s'arrêter. Donc maintenant, il faut quelque chose d'autre. Donc dans le court terme, ce qui est plus facile, c'est d'essayer de mettre de l'énergie dans le moteur, donc de sur-investir, de faire des grandes dépenses publiques, et c'est ce que fait la Chine pour l'instant. Mais ils se disent bien que maintenant, il va y avoir des réformes à faire, des réformes douloureuses, structurelles, de réduire les dettes des provinces, de restructurer les surcapacités dans les entreprises publiques, notamment dans l'acier. Donc ils savent que ça va bientôt se faire, mais pour l'instant, il se renvoie depuis 2015, il se renvoie la balle. C'est une partie de ping-pong. Là, la partie de ping-pong, Xi est en train de siffler la fin de la partie. Il est en train de prendre le pouvoir. Donc maintenant, la Chine va se restructurer et réduire ses capacités, notamment dans l'acier.
Alors, face aux États-Unis qui demandent à la Chine d'abaisser ses droits de douane sur les voitures américaines, d'acheter davantage de semi-conducteurs américains, de faciliter l'accès de leur entreprise dans le secteur financier, la Chine évoque la possibilité de droits de douane sur 3 milliards d'importations en provenance des États-Unis, le porc, les fruits américains. C'est quoi les moyens de rétorsion de la Chine?
Ah ben, la Chine, ils importent peu des États-Unis relativement à leurs exportations, mais le soja, c'est quand même très très important.
Alors pourquoi le soja n'est pas concerné, justement, n'est pas dans la liste des articles mis en avant par Trump jeudi soir?
Pour l'instant, il faut essayer d'avoir des marges de manœuvre, je pense. Mais la prochaine étape, je suis tout à fait d'accord, c'est les services et les droits de propriété intellectuelle. C'est le commerce du 21e siècle. Et c'est là où ce qui va se passer entre les États-Unis et la Chine est important, non seulement pour ces deux pays, mais aussi pour tous les autres pays, notamment l'Union européenne.
Alors, un mot, Didier Saint-Georges, puis on revient dans un sens sur la propriété.
Oui, juste un mot sur le fameux soja.
Le soja, ouais.
Les graines de soja, c'est quelque chose qui, effectivement, représente quelque chose d'important dans les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis. C'est environ 95 millions de tonnes de graines de soja que les Chinois importent des États-Unis, au total plutôt. Et sur ce montant total, les États-Unis, c'est à peu près un quart. Et vous avez derrière le Brésil et l'Argentine qui fournissent la Chine là-dessus. Les marges de manœuvre sont assez limitées. C'est-à-dire que si aujourd'hui la Chine disait, ben dans ce cas-là, on n'achète plus de graines de soja aux États-Unis, la capacité pour le Brésil ou l'Argentine de produire davantage est
ils ne pourraient pas.
Donc la réalité de la menace est en réalité assez faible. Mais elle est faible à peu près partout. C'est-à-dire que quand la Chine dit, bah si on n'arrive pas à être d'accord, j'en achèterai plus d'avions Boeing, j'achèterai des avions Airbus. La réalité, c'est que Airbus ne peut pas remplacer Boeing auprès de la Chine. Donc la réalité des menaces de part et d'autre.
Il y a du bluff, donc c'est ça.
Il y a énormément de bluff de part et d'autre. Et c'est pour ça qu'au final, ça se résoudra, enfin au final, pour cette année, ça se résoudra par un Donald Trump qui sera capable de dire j'ai obtenu ceci et cela. Et gardez à l'esprit que l'ouverture de l'économie chinoise est déjà en route. Dès Davos, au mois de janvier, vous avez Liu Yi, qui est devenu maintenant vice-premier ministre, commençait déjà à parler du fait que l'économie chinoise devait s'ouvrir, notamment le capital des joint ventures pourrait passer bientôt à 51% sous contrôle étranger. Donc l'ouverture est en route, elle va se continuer, et vous aurez Donald Trump qui sera capable de vous dire « Regardez ce que j'ai obtenu », ce qui sera probablement pas beaucoup plus qu'une accélération d'un mouvement qui est déjà en cours.
François Hesbourg, juste sur la violation de la législation sur la propriété intellectuelle, Washington accuse Pékin de tous les maux, va déposer plainte devant l'OMC. Bon, pour quelle raison est-ce que Pékin a vraiment des choses à se reprocher en la matière?
Je pense que de manière large, je ne vais pas me focaliser sur le cas spécifique que vous évoquez, et de manière large, la Chine pratique une politique à deux visages. Le premier visage est celui qui est tourné vers le marché intérieur chinois, qui est fortement protégé. Et les firmes américaines ou plus rarement non-américaines qui essayent d'être des joueurs en matière de services de l'information en Chine, ils ont beaucoup de mal. Et à l'inverse, la Chine joue sur l'ouverture du système commercial international pour sortir de derrière sa grande muraille cybernétique et occuper de nouvelles positions à l'étranger. Par exemple, ça peut commencer en Chine par une application comme WeChat, et un peu plus tard, WeChat devient une application mondiale, et ce qui serait un tout petit peu embêtant, parce que les conditions générales d'utilisation prévoient quand même que le ministère de la sécurité publique de la Chine peut avoir plus qu'un œil dessus. Et alors ça, effectivement, là il y a un vrai énorme problème, ce que disait madame, et c'est la compétition entre les États-Unis et la Chine pour savoir qui aura la primauté
sur la tech
dans les grands domaines à fort contenu de propriété intellectuelle. Je pense à l'intelligence artificielle, je pense à la robotique, et je pense aux biotech, et je pense aux calculs quantiques, et à des domaines où les Américains et les Chinois sont aujourd'hui au coude à coude. Et les Européens sont, hélas, sauf peut-être dans le bio, à peu près complètement en dehors du jeu. Ça sont des guerres que nous ne mènerons pas, parce que nous ne sommes pas en état de nous y avancer. Mais c'est là où ça va se jouer, et c'est là où Trump aurait peut-être davantage intérêt à avancer substantiellement que sur des histoires effectivement de tarifs et de droits de douane qui sont des combats littéralement du siècle dernier, mais qui peuvent foutre un pataquès épouvantable dans les chaînes de valeur transfrontières, parce qu'encore une fois, quelle grande entreprise va développer des chaînes de valeur aussi globalisées que celles qui ont été mises en place pendant les années 80 et 90, si elle doit partir du principe que peut-être dans 5 ans, l'OMC, elle n'existe plus, et dans 10 ans, la Chine et les États-Unis se sont chacune retranchées derrière leurs grandes murailles respectives. Mm-hmm. Mais ce que disait, ce que vous disiez,
Saint-Georges,
les élections mid-term, elle se joue dans les États où Trump a gagné les élections présidentielles. Ce sont les États du siècle passé. C'est le charbon, l'acier, tous ces trucs-là.
L'agriculture.
Et bien sûr, ce sont les mêmes États où, effectivement, il y a l'agriculture.
Oui, allez-y, Kiko Souwa, Eisenman.
Mais pour l'agriculture, ils seront embêtés par l'ALENA, quand même, par la renégociation ou par la disparition de l'ALENA, si c'est le cas. Mais c'est vrai qu'à moyen terme, la victime collatérale, ça risque d'être l'OMC. Parce que pour l'instant, la Chine fait extraordinaire, respecte les règles. Donc elle veut soulever une plainte auprès de l'organe de règlement des différends. Sauf que l'organe de règlement des différends est complètement asphyxié. C'est la symphonie des adieux, ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que maintenant, ils doivent être sept. Le deuxième panel, celui qui juge en dernier recours et qui a un pouvoir important dans l'OMC, ils doivent être sept. Sept jurés. Là, ils sont quatre. En septembre, ils seront trois, dont une chinoise. Donc, s'il y a une plainte avec la Chine, elle sera obligée de se récuser. Et donc, tout le processus est gelé. Donc, on essaierait d'asphyxier l'OMC qu'on ne peut pas autrement.
Et ce qu'il faut ajouter, c'est que ce sont les Américains qui sont en grande partie responsables de la non-désignation des nouveaux jurés. Et à partir du moment où il n'y a plus de quorum, les affaires ne sont plus tranchées.
Est-ce qu'à votre avis, on y reviendra peut-être aussi, mais est-ce que c'est un coup de force aussi pour susciter de nouvelles négociations avec la Chine, ce qui se passe là en ce moment, donc ce bras de fer entre Chine et États-Unis, à votre avis?
Sur l'OMC, vous voulez dire?
De façon générale, ces droits de douane qui sont brandis de part et d'autre.
Oui, c'est essayer avec des instruments du passé, c'est-à-dire les droits de douane, essayer de réfléchir à d'imposer les règles pour le commerce actuel, qui de nouveau est un commerce de services, un commerce avec des standards, des normes, des règles de propriété intellectuelle, des choses qui sont beaucoup plus qui sont beaucoup plus moins monétaires. Que les droits de douane. Donc c'est comme si on appliquait l'arbalète pour essayer d'attraper une fusée, quoi.
Didier Saint-Georges Carmignac, puis on se retrouve dans un instant.
Songez au cynisme de la situation. Vous avez aujourd'hui ces menaces de long terme sur lesquelles on est assez d'accord, c'est-à-dire quelque chose qui vraiment correspond à ce que la Chine a déjà mis dans son plan Made in China 2025. On raisonne sur, et ils ont un plan sur 2030 pour l'intelligence artificielle, dans des enjeux majeurs qui font que les petits grignotages que souhaite obtenir Donald Trump à court terme ne mettent absolument pas en jeu cette ambition-là, et à la limite focalise l'attention sur cet aspect-là, ce qui permet à la Chine de continuer de progresser. Ce qui veut dire que l'attitude de Donald Trump aujourd'hui n'est pas si défavorable à la Chine. Elle est assez, comment dirais-je, compatible avec l'ambition de la Chine de devenir dominante à long terme. Voilà. En revanche, ça peut aider Donald Trump à avoir un bon résultat aux élections de mi-mandat, ce qui peut peut-être lui suivre dans l'immédiat. Donc on est dans une espèce de situation qui me paraît extrêmement cynique.
Bon, le grand bluff, c'est ce qu'on disait. On se retrouve dans un instant, on verra aussi bien les risques pour l'économie mondiale. On entendra Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC, qui, tout comme son successeur, se montrait très inquiet pour l'avenir de l'économie mondiale, si évidemment ça s'enferme, cette guerre. À tout de suite.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Alors Chine, États-Unis, est-ce le grand bluff de part et d'autre? On montre les muscles, mais bon, on nous dit que des négociations auraient commencé donc entre Steve Mnuchin, le secrétaire à l'économie, et puis le nouveau conseiller, donc vice-premier ministre quelque part. Rappelez-moi son nom, Didier Saint-Georges.
Liu He,
voilà, très très bien qu'on voit, c'est l'homme qui monte justement, qui avait été donc qu'on voyait au moment de ce changement de constitution. Absolument. Donc en faveur de Xi Jinping il y a 15 jours. Chine et États-Unis engagés sur des négociations. Akiko Souwa Eisenman, économiste au cercle des économistes, chercheuse à Paris School of Economics, sur quoi peuvent porter les négociations? Sur quoi discute-t-on? Est-ce qu'on peut parler d'un apaisement ou pas?
On peut...
Vous en doutez, là?
Oui,
très réservé, apparemment.
Non, mais Trump veut... il va avoir du grain à moudre pour son électorat. Ouais. Et donc les Chinois vont lui donner quelque chose.
Mais... Il veut montrer quelque part qu'il fait venir les Chinois à la table des négociations, que grâce à lui, finalement, les Chinois arrivent à la table des négociations.
C'est peut-être un peu ce qui est en train de se passer sur la Corée du Sud et ce qui s'est passé sur le Japon il y a 25 ans.
Alors, on va rappeler la Corée du Sud qui aujourd'hui eh bien, acceptait de réduire de 30% ses exportations d'acier vers les États-Unis. On a l'impression que... Il fait rentrer tout le monde dans les rangs. On dit oui, Trump, il est léger, etc. Il est amateur, mais quelque part, il arrive à faire plier certains pays, non ?
Ce qui s'est passé sur le Japon il y a 25 ans, c'est les États-Unis ont tapé du poing sur la table en disant « Je veux avoir tant de parts du marché japonais et vous, les Japonais, vous réduisez votre part des exportations de voitures aux États-Unis. » Donc les Japonais ont répliqué par deux choses. Premièrement, ils ont effectivement construit des usines aux États-Unis. Et deuxièmement, ils ont augmenté le prix des voitures. Donc ils ont monté en gamme. Et donc il y avait... Effectivement, moins de voitures aux États-Unis vendues, exportées par le Japon, mais beaucoup plus chères.
Cher.
Et donc celui qui a perdu, enfin si tant est, c'est le consommateur américain. S'il aimait les voitures japonaises qui se cassaient mais qui n'étaient pas très chères.
François Hesbourg, je disais donc, alors il y a ce que Trump arrive à faire, ou en tout cas ce qu'il essaie de faire croire peut-être ou montrer à ses électeurs. La Chine, la Corée du Sud, tout le monde rentre dans le rang. Les autres commencent à s'aligner vraiment ou pas ?
Non, je crois qu'il faut vraiment faire une différence très basique entre les pays qui ont des rapports d'alliance avec les États-Unis et ceux qui n'en ont pas.
Alors
la Corée du Sud est évidemment en situation de dépendance en matière de défense par rapport aux États-Unis. C'est le cas aussi du Japon. Ça donne des leviers. Et qui sont, si je puis mélanger les métaphores, qui sont aussi des sabres de bois, comme vous l'avez rappelé, à savoir qu'effectivement, dans le jeu du protectionnisme, c'est très souvent celui qui impose le protectionnisme qui se trouve en plus mauvaise posture que celui qui se met en situation de contourner les mesures protectionnistes, comme l'ont fait avec beaucoup de succès les producteurs d'automobiles japonais. Et la question qui va se poser dans les mois qui viennent, ça va être quelle va être l'interférence entre la relation économique sino-américaine et la relation stratégique sino-américaine autour de la Corée du Nord.
Ouais.
En théorie, vers la fin du mois de mai, il devrait y avoir la fameuse rencontre entre Kim Jong-un et le président américain. Et affaire sur laquelle j'ai des attentes extraordinairement modestes, et ça peut être d'ailleurs, le résultat peut être pire que le statu quo, à savoir que les attentes ont rapidement monté, en Corée du Sud notamment, et si la rencontre se solde sans ce que cherche Trump et sans ce qu'il paraît avoir promis, c'est-à-dire un engagement de dénucléarisation de la Corée du Nord, qui me paraît quelque chose d'extraordinairement peu vraisemblable. Et à ce moment-là, on risque d'avoir un retour à la tension en Asie du Nord-Est et dans des conditions... et qui aujourd'hui sont imprévisibles en ce qui concerne l'interaction avec les relations économiques sino-américaines. Mais traduit en clair, ça veut dire un facteur d'incertitude supplémentaire qui s'ajoute au tableau que nous venons de dresser.
Juste sur la marge de manœuvre de Trump quand même, je cite Adam Pozon, que vous connaissez probablement, à la tête du Peterson Institute, qui parle de l'Afghanistan économique de Donald Trump. Ça signifie quoi ? Il y a un risque d'enlisement pour Trump, qu'il est allé trop loin, qu'il craint de s'enliser, c'est quoi ?
Pour expliquer, les Américains sont en Afghanistan depuis octobre 2001, ça ne fait jamais que 17 ans.
Ouais.
Et la situation aujourd'hui n'est pas notablement meilleure qu'au lendemain de leur arrivée. Et ça a dû coûter, je sens un chiffre à la louche, mais ça doit être du côté de 300 ou 400 milliards de dollars. Et bien sûr, un certain nombre de morts, du côté américain, ça doit faire près de 1000 morts, je crois, en Afghan, depuis qu'ils y sont. Et autrement dit, ce n'est pas le genre de choses que vous pourriez souhaiter et que vous ne faites que si vous ne voyez pas le moyen de faire autrement. Hein, dans le cas de l'Afghanistan, c'est à l'attaque du 11 septembre.
Donc, risque d'enlisement ou pas pour Trump?
Et donc, évidemment.
Guerre avec la Chine.
Bah, évidemment. Et d'autant plus que la Chine est un pays qui est stratégiquement patient. Et même s'il peut être tactiquement est lui aussi capable de faire des sauts imprévus.
Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement chez Carmignac, juste encore sur les leviers que pourrait utiliser la Chine vis-à-vis des États-Unis. On a parlé donc de droits de douane sur un certain nombre de produits. On aurait pu parler aussi de embêter quelque part avec des nouveaux règlements, des inspections, des grandes boîtes comme Microsoft, Apple, etc., etc. On sait que Pékin accumule l'équivalent de 1500 milliards de dollars en bons publics. Est-ce que Pékin pourrait arrêter d'acheter des bons du Trésor américain quelque part pour gêner les États-Unis? C'est envisageable ou pas, ça?
Ça fait partie de l'arsenal des moyens de rétorsion. Aujourd'hui, on estime que la Chine détient environ 9%, 8-9% de la masse d'emprunt d'État du Trésor américain. Donc le montant est à la fois important dans l'absolu, mais en réalité...
Pourrait s'en servir ou pas?
Alors d'abord, je pense que c'est une arme, comme toutes ces armes, effectivement, en matière de protectionnisme, qui est toujours à double tranchant, hein, parce que s'il faisait baisser la valeur de ses emprunts du Trésor, ceux qu'il garde perdraient de la valeur. Et de la même manière, le montant n'est peut-être pas si énorme pour qu'ils puissent prétendre à eux seuls faire remonter les taux d'intérêt en revendant ses obligations. Donc je pense que, et comme très souvent dans ces histoires de négociations publiques, vous avez des postures de départ qui, par définition, sont du domaine de la menace, éventuellement proposition de négociation avec un pistolet sur la tempe, c'est un petit peu la technique de Donald Trump, mais ce sont des postures de négociation pour montrer à son électorat, mais en Chine c'est pas exactement un électorat, non. Mais c'est quand même une opinion publique sur laquelle il faut montrer qu'on ne se laisse pas faire et qu'on va réagir. Mais sur quoi ça débouche? Ça débouche la plupart du temps sur la marge possible de négociation pour les deux, qui en réalité, compte tenu de l'intégration économique globale, et je suis d'accord qu'effectivement Donald Trump s'y prend très tard, on est à un tel degré d'intégration globale aujourd'hui que les marges de manœuvre sont faibles. Donc au final, je pense que ça va accoucher d'une souris, ouais. Mais c'est pas tellement le sujet stratégique, ça c'est le sujet pour les marchés. Stratégiquement, c'est qu'effectivement il y a une guerre technologique qui elle est beaucoup plus importante, et Xi Jinping, je pense, se souvient aussi assez peu. D'ailleurs, c'est pour ça que lui n'a pas pris la parole. Hein. C'est Liu Yi qui prend la parole. Oui. Xi Jinping est resté...
Ou la porte-parole du ministère.
Absolument silencieux sur le sujet. C'est-à-dire que c'est un sujet accessoire. Alors, il faut pas perdre la face, mais c'est un sujet économiquement accessoire dès lors que la Chine remportera la grande bataille technologique à moyen terme. C'est ça l'enjeu pour la Chine.
Alors, justement, les conséquences. Alors, on a vu pour les États-Unis, les conséquences qui pourraient être assez limitées. On parlait tout à l'heure de 2% du total des exportations américaines vers la Chine. Concernant la Chine, c'est S&P qui voyait aussi un impact limité également donc pour la Chine. Au-delà de la Chine quand même, conséquence donc pour l'économie mondiale. C'est Robert Azevedo, directeur général de l'OMC, qui disait attention, tout ça peut mettre en péril l'économie mondiale. Et Pascal Lamy, son prédécesseur, il était sur la même longueur d'onde. C'était il y a quelques heures, c'était hier soir ou ce matin tôt.
Nous vivons dans un monde où l'économie est largement interconnectée, bien plus que dans le passé. La rupture de ces liens aurait un coût considérable. J'espère que les États-Unis se rendront compte, d'eux-mêmes, de l'immense coût qu'aurait une guerre commerciale.
Alors, quel coût, justement, ça pourrait avoir à Akiko Suwa-Eisenman quand on écoute donc Pascal Lamy et son successeur dit exactement la même chose. Quel coût pour l'économie mondiale? Quelles conséquences directes de cette guerre commerciale entre les deux géants, les deux premières économies mondiales?
Donc là, dans l'économie mondiale, depuis l'OMC, il y a l'OMC a sans doute beaucoup de défauts, mais c'est une structure juridique. Et ces règles, elles sont sans doute perfectibles. Et peut-être que ce que veut faire l'administration américaine, c'est d'améliorer ces règles. Mais de nouveau, il le fait avec d'une manière complètement inconsidérée. Mais ces règles sont sans doute perfectibles, mais ce sont des règles. Donc, les règles, ça veut dire qu'il y a ces règles, c'est des règles de réciprocité. Et ce qu'on accorde à l'un, on accorde à tout le monde. Et ces règles-là, qui sont des règles permanentes, sont fragilisées par l'action unilatérale américaine. Et surtout l'action américaine qui invoque cette sécurité nationale avec une définition très très large, de la sécurité nationale.
Pour l'acier, on l'a vu, oui.
Et donc ça peut donner, pour l'instant la Chine se conforme aux règles, mais ça pourrait donner des idées à plein d'autres pays.
C'est quoi, Didier Saint-Georges, concrètement, c'est quoi devoir ressurgir les tensions inflationnistes, donc, dans ce contexte en plus de plein emploi aux États-Unis, des mouvements sur les taux de change de certaines monnaies, concrètement.
Ouais,
qu'est-ce que craint Pascal Lamy quand il dit ça?
Oh, je pense qu'il craint ce que je disais au début, c'est-à-dire que le protectionnisme est une sorte de chiffon rouge pour tous les économistes libéraux.
Bien sûr, et qu'on peut pas s'en accommoder.
Mais la seule chose, je pense, c'est qu'on est trop catastrophiste à court terme là. Aujourd'hui, on a une réalité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une part de réalité dans tout cela qui est que la Chine aujourd'hui est protectionniste, pas tant sur les barrières douanières, puisque depuis leur entrée dans l'OMC en 2001, ils ont quand même massivement réduit leurs barrières douanières, mais beaucoup plus ce qui est non tarifaire. Sur ces sujets-là, il n'est pas exclu que l'attitude de Donald Trump accélère effectivement le mouvement d'ouverture de la Chine, c'est-à-dire qu'on puisse, d'ici un an ou deux, être majoritaire quand on fait une joint venture en Chine, que l'on puisse effectivement exporter un peu plus vers la Chine. Donc le mouvement de court terme, il n'est pas négatif en soi.
Oui,
ce qui est terrible, c'est comme aux échecs, hein, c'est que la menace est plus forte que l'exécution. Et donc la menace de monter en puissance de ces menaces et contre-menaces, ça c'est quelque chose qui fait très peur à n'importe quel économiste libéral. Mais la réalité là, c'est qu'on rentre dans quelque chose qui va probablement aller vers un peu plus d'ouverture de la Chine.
Bon, allez, le mot de la fin pour vous, Françoise Bourg.
Oh, très, très, très brièvement, Pascal Lamy a toujours mis l'accent sur l'importance des chaînes de valeur comme élément structurant du commerce international plutôt que de se pencher sur les relations commerciale d'État à État, bilatérale. Et si la règle du jeu change suivant la manière dont le souhaite Trump, c'est-à-dire vers un renforcement de la bilatéralisation, vers le côté État à État, les chaînes de valeur ne vont plus pouvoir fonctionner comme elles le faisaient à la grande époque de la mondialisation. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui vivent par et pour la mondialisation, mais c'est probablement pas une bonne nouvelle tout court. Et quant à ceux qui disent que tout ça est tellement intriqué qu'il y a très peu de marge de manœuvre, vous avez raison. C'était vrai du Royaume-Uni par rapport à l'Union européenne, mais le fait que ce soit extrêmement difficile d'opérer ce genre de virage ne veut pas dire qu'il n'y ait pas suffisamment des gens qui sont prêts à faire ce type de bêtises. Et nous sommes à une époque où il y a des gens comme Trump, où il y a des choses comme le Brexit. Donc ne sous-estimons pas la capacité d'émergence de ce type de rupture.
Merci à tous les trois. Merci Didier Saint-Georges, Managing Director, membre du comité d'investissement chez Carmignac. Akiko Souha Eisenman, elle est économiste, chercheuse à l'École d'économie de Paris, Paris School of Economics, membre du Cercle des économistes. Merci à vous. Puis François Hesbourg, conseiller spécial auprès de la Fondation pour la Recherche Stratégique, avec ce livre qu'il avait fait paraître il y a 2 ans, Comment perdre la guerre contre le terrorisme. C'était pas le sujet du soir, et c'est le sujet évidemment qui est dans toutes les têtes, bien entendu, depuis 4 jours, et puis évidemment depuis beaucoup plus longtemps en France, ailleurs dans le monde aussi. Merci à vous trois. On se retrouve vite avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.